Giro qua con voi, Alain Congolais, cosa faccio?
Bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé d'une année l'embargo sur les armes destinées aux groupes armés encore actifs en RDC. Quel est l'impact de cette mesure sur la paix et la sécurité en RDC? Trois invités participent à cette émission. Fred Robaz, membre du panel des experts de l'ONU. Il est parmi les rédacteurs d'un rapport publié cette semaine sur les sources de financement et soutien des groupes armés à l'est de la RDC. Monsieur Robaz, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atumbu Diongo, ancien chef des services de renseignement et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR, parti de la majorité présidentielle. Monsieur Atumbu, bonsoir.
Bonsoir.
Thomas Louaka Losenjola, député national MLC et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Honorable Louaka, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, comme d'habitude, nous les avons déjà. Jules de Bandon-Douville, un embargo accompagné du démantèlement de différents réseaux des fournisseurs d'armes aux groupes armés. Quel est le véritable embargo si l'on veut que la RDC recouvre réellement sa sécurité d'antan? Auquel cas, ce serait un simulacre d'embargo. Karlungili de Bounia en province orientale, je ne pense pas que cette mesure d'embargo des armes aura un impact positif car les armes circulent toujours, malgré des mesures antérieures prises sur le plan local et international. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé d'une année l'embargo sur les armes destinées aux groupes armés encore actifs en RDC. Il a également exprimé son inquiétude en raison de nouvelles attaques contre des villages. Le Conseil a donné son aval pour vérifier si de l'argent versé à des individus et des entreprises pour des minerais et des pierres précieuses importées de la RDC va à des groupes armés pour aggraver le conflit dans le pays. Éclairage avec Pascal Massirica.
La résolution 1952 rédigée par la France renouvelle les sanctions pour un an jusqu'au 30 novembre 2011. Ces sanctions incluent un embargo sur les armes en place depuis 2003, des restrictions sur le trafic aérien et des sanctions financières contre les dirigeants du pays, ainsi que des miliciens rwandais et des groupes de rebelles actifs en RDC. La résolution reconnaît le flux continu et illicite d'armes à l'est du pays en proie à des violences. Elle s'inquiète aussi de meurtres et des déplacements des civils, l'utilisation d'enfants soldats et les viols en série des femmes dans les provinces de l'est du pays en juillet et août dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé son soutien à des nouvelles réglementations qui exigeraient que les utilisateurs des minerais du Congo-Kinshasa vérifient l'origine de leur importation. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Susan Rice, a indiqué que ces réglementations limiteraient de façon significative le commerce illicite de minerais qui a depuis des années suscité la violence en République démocratique du Congo.
Merci Pascal Massirica. Fred Robaz, je rappelle que vous êtes membre du panel des experts de l'ONU. Vous figurez parmi les rédacteurs d'un rapport publié cette semaine sur les sources de financement et soutien des groupes armés à l'est de la RDC. Pour la petite histoire, il faut rappeler pour les auditeurs et internautes qui nous suivent qu'imposé initialement par les résolutions 1493 en 2003 et 1596 en 2005, l'embargo ne s'applique plus depuis la résolution du 807 en 2008 au gouvernement de la RDC. Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut faire une petite évaluation de l'impact que tous ces embargos ont eu jusqu'à ce jour?
Bon, merci. Je crois qu'il faut rappeler que l'idée de cet embargo, c'est un outil de diplomatie, c'est entre les États membres des Nations Unies. Les responsabilités primaires pour la sécurité de l'État restent avec l'État, bien évidemment. Mais l'idée, c'est d'avoir un effet dissuasif sur les fournisseurs potentiels ou éventuels des armes, pour qu'ils sachent que certaines formes de commerce ne sont pas acceptables au niveau international, que ça peut représenter une menace sécuritaire de renforcer la position d'un groupe armé qui est tout à fait illégal et qui représente une menace à la sécurité des civils congolais.
Est-ce que dans cette optique-là, on pourrait considérer toutes ces résolutions comme des vœux pieux?
Bon, c'est pour peut-être les autres à juger, mais je crois que la position du Conseil de sécurité est quelque chose à prendre en mesure, prendre en sérieux. C'est un indication de la volonté de plusieurs membres. Ce n'est pas que des membres permanents, il y a des autres membres du Conseil. Et leur volonté, c'est quelque chose. Finalement, comme peut-être votre lecteur à Bounia pense, il faut que les décisions du Conseil soient respectées par les États membres eux-mêmes. Et ce n'est pas pour... ça, c'est une question pour chacun décider s'ils ont bien fait.
Et on se rappelle aussi, hein, Fred Robats, que la circulation des armes est étroitement liée au commerce des minerais. Ce sont deux éléments qui vont de pair. Est-ce que la situation à ce jour a changé sur terrain?
Oui, j'ose croire que oui, ça a changé. Bien évidemment, il y avait une époque de guerre ouverte où peut-être on avait des échanges plus ou moins direct, minerais pour des armes. Peut-être aujourd'hui, c'est plus subtil et plus complexe, les transactions qui existent. Il y a plusieurs niveaux des intermédiaires. Et donc, pour une société qui veut savoir de leurs fournisseurs de minerais d'où viennent ces minerais, c'est un problème un peu épineux. Et nous avons, dans le rapport, fait quelques recommandations pour explorer comment mesurer le risque que la commerce peut profiter des groupes armés illégales.
André Alain Atundu, comment vous avez accueilli, hein, on dira, cette nouvelle résolution sur la prolongation de l'embargo sur les armes destinées aux groupes armés?
Bon, d'abord, je tiens à féliciter le travail des experts qui constitue un outil de travail pour le Conseil de sécurité afin de prendre des résolutions pertinentes. En fait de pertinence, celle-ci n'a pas une nouvelle résolution. C'est une reconduction d'une ancienne et je suis tenté de penser, comme vous l'avez dit, en posant une question, ne s'agit-il pas d'un vœu pieux? Moi, je pense qu'il s'agit d'une résolution Ponce Pilate. C'est pour que l'ONU, le Conseil de sécurité, s'est lavé les mains en jetant, j'allais dire, le bébé dans les mains de la République démocratique du Congo. Alors que pour faire œuvre utile et être vraiment efficace, cette résolution devait s'inspirer de dispositions sur le gel des avoirs, où on a cité les gens et on a donné des justifications. Or ici, je pense que depuis tout ce temps que notre compie dure à l'est du pays, on connaît les transporteurs, on connaît les utilisateurs finaux, on connaît les commanditaires, alors pourquoi ne pas prendre une résolution pour les citer? Ça c'est de un. De deux, si la résolution avait pour objet de donner des moyens supplémentaires à la MONUSCO, alors ça allait être plus efficace, dans le sens, de moyens militaires, de moyens plus offensifs, etc., ce serait beaucoup plus dissuasif. Alors, troisièmement, il ne suffit pas de faire des déclarations de principe, les États autour, etc. Je crois que le Conseil de sécurité doit savoir exactement par quel pays transitent ces armes et qui favorise ce trafic. Et donc, cette résolution est une résolution, comment dire, veule, c'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté affirmée de nature à faire avancer. Elle n'est pas dissuasive, voilà.
Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question à Fred Robats entre le lien entre le commerce des minerais et cet embargo, la circulation des armes. Il dit que sur le terrain, il y a quelques améliorations, mais est-ce qu'on vous venez d'affirmer que les raisons sont connues, donc on ne peut s'attendre à rien dans ce sens-là?
Monsieur Robert, Monsieur Fred a dit aussi que les relations étaient plus subtiles, plus complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en réalité, ce commerce a quitté l'espace visible pour devenir souterrain. Et cela, tout le mérite des experts, lui dire, voilà, maintenant le commerce se présente comme ceci, et en fonction de ces éléments pertinents puisés sur le terrain, le Conseil de sécurité devait prendre des résolutions plus concrètes, plus contraignantes et plus dissuasives, tant vis-à-vis des États que vis-à-vis les intermédiaires, les commanditaires et les transporteurs. Parce que s'il avait pris, le Conseil de sécurité avait pris une mesure du genre le gel des avoirs des personnes suivantes, comme c'est cité ici, nom, prénom, c'est tel, justification, c'est tel, si le Conseil de sécurité avait procédé de la même façon pour les compagnies transporteuses, pour les pays transitaires, je crois que ça aurait eu beaucoup plus d'effet.
Prenons cette question d'auditeur qui nous vient de Mbujimayi pour vous, André Alain Atondo.
Sylvain Mazatombo de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Pour moi, cette mesure d'embargo sur les armes pour la RDC Congo, bien que cette mesure d'embargo s'adresse aux groupes insurrectionnels, pour moi, cette mesure vraiment n'aura pas d'impact, puisque la plupart des groupes insurrectionnels qui opèrent en RDC Congo s'approvisionnent en armes par la bénédiction de nos pays voisins. D'avance, nos frontières de la RDC Congo ne sont pas sécurisées.
Il y a aussi un problème de collaboration entre les États, André Alain Atondo.
Oui, il y a un problème de collaboration entre les États, et pas seulement les États de la sous-région, mais aussi les partenaires internationaux. Vous savez très bien que la Grande-Bretagne a refusé de donner une suite ou de livrer les compagnies qui étaient citées. Voilà un cas qui pourrait être peut-être même incitatif au groupe négatif sur le terrain, de dire, bon, écoutez, puisque la Grande-Bretagne ne livre pas, nous allons continuer à commercer avec les compagnies britanniques. Et les Britanniques pourraient dire aussi, oui, puisqu'on ne nous livre, on ne nous livre pas, eh bien, nous allons maintenant passer. Par contre, c'est ce que M. Preda dit, c'est devenu plus subtil.
Honorable Thomas Loakalosozola, député national MSC, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, vous avez suivi André Alain Atondo parler d'une résolution Ponce-Pilate où le Conseil de sécurité n'affirme pas sa volonté ferme de mettre fin à ce problème de circulation d'armes.
Non, je pense que nous déplaçons les débats. Nous déplaçons les débats parce que la première question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi une résolution des Nations Unies embargo sur les armes sur la RDC? Pourquoi pas la Tanzanie? Pourquoi pas l'Afrique du Sud? Pourquoi pas l'Angola ou la Zambie? Parce que justement, c'est en RDC, il existe des groupes armés. L'existence même des groupes armés, c'est une anomalie. Dans un État bien organisé, ces choses-là ne devaient pas exister. Maintenant, on a l'impression que les groupes armés au Congo, c'est naturel, c'est normal. Non, les groupes armés, comme on les appelle illégaux, n'ont pas le droit d'exister. Un État digne de ce nom, c'est la définition de l'État, c'est l'institution qui a le monopole de la violence légitime. Il ne doit pas faire concurrence avec d'autres groupes armés. Donc, déjà, l'existence des groupes armés aujourd'hui est un échec du gouvernement, c'est un aveu d'échec de notre gouvernement à pouvoir sécuriser la population. C'est une anomalie. Puisque c'est une anomalie, puisque le gouvernement est incapable de mettre fin à ce cirque dramatique, puisque ça dure depuis des années, les Nations Unies interviennent pour nous aider dans ce combat de lutte contre les groupes armés, en nous facilitant un peu la tâche en disant, est-ce qu'on ne peut pas la couper, la source de ravitaillement de ces groupes armés, comme ça, l'État congolais aurait moins de difficultés à les combattre. Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés à les combattre. Donc voilà dans quel cadre il faut mettre cette résolution. C'est vraiment venir en soutien, en appui, à l'échec du gouvernement congolais à sécuriser la population. Donc ça, c'est la première chose.
Et que ça ne demeure pas un vœu pieux pour vous.
Exactement. Deuxième chose, quand on parle des groupes armés, il faut là aussi qu'on soit clair. Un groupe est-il illégal lorsque maintenant il parle avec les gouvernements? Lorsqu'il passe des accords avec les gouvernements? Prenons un exemple comme ça en passant, le CNDP. Donc, je crois qu'on est dans une situation ambiguë où il y a des groupes illégaux, des groupes illicites qui causent des drames horribles de la population, mais qui sont en même temps, puisque le gouvernement est incapable de mettre un terme à leurs activités, qui sont en train de parler, qui sont devenus des partenaires du gouvernement. Vous savez qu'il y a des zones où les hommes de les militaires de la République ne peuvent pas se déployer parce que les groupes de armées sont là, ce qui n'est pas normal. Donc là aussi, il faudrait qu'on puisse
prendre nos responsabilités au niveau des Congolais pour mettre un terme à tout cela. Autre chose, donc la communauté des armes. La dernière chose maintenant, on retombe sur la question de l'efficacité de cette mesure. Je crois que les Nations Unies manifestent leur volonté de pouvoir mettre un terme à ce qui se passe là-bas. Mais je pense qu'il y a trois obstacles qui limitent l'efficacité de cette résolution. Premièrement, quelles sont les mesures de traçabilité? Nous connaissons les pays qui... Vous savez que les armes ne sont pas des produits naturels, ils ne poussent pas sur des arbres, ils sont fabriqués. Et les pays qui les fabriquent sont connus. Ils ne sont pas très nombreux. En Afrique, je peux vous donner quelques exemples. Vous avez l'Afrique du Sud, l'Égypte, Kenya, Namibie, Nigeria, Ouganda, la Tanzanie, le Zimbabwe. Ils fabriquent les armes. Mais quelles sont les mesures de traçabilité que les Nations Unies ont prises pour pouvoir suivre? Le Zimbabwe a produit combien d'armes? Combien d'armes ont été dotées à l'armée nationale? Combien ont été exportées et où? Le Nigeria. Ainsi de suite. Ça aussi, ça peut nous aider. Autre chose. Ça, c'est la première chose, la traçabilité. Deuxième chose, est-ce que les Nations Unies se sont donné les moyens de bien contrôler l'embargo? Nous savons que nous avons des frontières poreuses. J'ai lu dans la résolution, on dit, non, il faut augmenter les contrôles à la douane. Mais tout ne passe pas à la douane. Vous savez combien de postes frontaliers, des pistes de passage qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, l'Ouganda et la RDC? Est-ce que les Nations Unies ont pris comme disposition pour pouvoir justement rendre étanche? C'est un travail difficile, mais il faut se donner les moyens si on veut des résultats. Et dernière chose, je m'arrêterai par là, c'est ce que André Atunga a dit tout à l'heure, au niveau des sanctions. Jusqu'aujourd'hui, ça a commencé en 2008, ces résolutions. On reconduit. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, quelles sont les sanctions déjà qui ont été prises? Parce que j'ai quand même entendu parfois comme ça des rapports des experts qui citent des noms de sociétés, qui citent des pays, qui citent des individus. Quelles sont les sanctions qui ont déjà été prises? Donc, puisque les sanctions jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas vues concrètement, là je suis tenté de rejoindre ceux qui disent que c'est un vieux pire.
Alors, Fred Robats, en tant qu'expert, est-ce que vous avez réfléchi sur ce problème de traçabilité de ces armes qui quittent la production juste sur terrain? Est-ce que vous avez réfléchi sur les moyens de contrôle de cet embargo ainsi que sur les sanctions?
Oui, bien sûr, ça sera souhaitable que chaque fabricant des armes soit plus transparent dans son métier. Mais évidemment, et ça aussi nous arrive à la question de souveraineté des États. Donc, les moyens des Nations Unies et leur pouvoir, en effet, est limité. Ils ne peuvent pas insister 100% sur les activités des États membres. Ils peuvent les encourager, ils peuvent même les exiger certaines mesures. Mais c'est vrai que la traçabilité et la transparence de ces transactions sera une bonne chose, et il faut que l'appui sera donné pour les mesures de contrôle des frontières, de l'espace aérien, des lacs que vous avez mentionné. Et là, c'est le travail des services congolais. Peut-être la communauté internationale peut les aider, mais ils ne peuvent pas prendre cette rôle et ils ne peuvent pas les remplacer jamais. Et finalement, juste par rapport aux sanctions, mesures de sanctions, même si je ne représente pas le Conseil, mais je peux vous rassurer, si vous voulez, que même si les rapports, le lien entre les rapports et les mesures de sanctions n'est pas automatique, ça, la décision reste avec le Conseil de sécurité, mais quand même, il existe une liste des individuels et des entités qui sont frappés avec les sanctions ciblées qui ne peuvent pas voyager librement, par exemple, et la gel des avoirs. Et ça a un effet peut-être dissuasif sur le comportement. Et si le comportement change, ils peuvent recommencer et quitter la liste.
Alors, parce que vous faites allusion à cette liste Fred Robats, sachez que la liste des personnes interdites de voyager par les Nations Unies et dont les avoirs sont gelés s'agrandit. Gaston Yamouregné, Félicien Zazoubukire, Innocent Zimourinda et Léodomir Mougaragou sont les quatre nouveaux ajoutés à cette liste depuis hier. Ceci porte à 24 le nombre d'individus frappés par cette mesure. Notez que la liste noire de l'ONU comporte aussi les noms de cette entreprise ou organisation. Plus de détails avec vous, Dona Madimba.
Parmi les anciens de la liste figurent des noms déjà bien connus comme Laurent Kunda, Bosco Ntaganda, Germain Katanga ou Thomas Lubanga, qui eux sont sur cette liste depuis sa création en 2004. À ces quatre, l'ONU reproche par exemple de nombreux liens, dont les plus graves sont le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés entre 2002 et 2003 pour Germain Katanga et Thomas Lubanga, et entre 2002 et 2009 pour Bosco Ntaganda et Laurent Kunda. Concernant les quatre nouveaux arrivés sur cette liste de l'ONU, aussi pour Gaston Yamouregné, Félicien Sanzouboukir et le leader Mougaragou, les griefs tournent surtout autour des postes respectifs qui récupèrent chacun au sein de FDLR, mouvement armé des Hutus rwandais. Les reproches qu'on fait à Innocent Zimourinda sont clairs. À cet officier du CNDP de Laurent Kunda, le lui reproche de nombreuses violations des droits de l'homme, dont l'usage des enfants dans les conflits armés et de nombreuses tueries, notamment celui de 89 civils en 2008 dans la région de Kiwanja.
Merci Dona Madimba, André Alain Atondo Nyongo. Quelle analyse peut-on faire quant à l'efficacité sur ce type de sanctions?
Avant de répondre, je voudrais donner juste quelques petites précisions soulevées par l'honorable Louaka. C'est la problématique de la persistance de ces groupes armés et la problématique de contact entre ces groupes armés et les officiers. Je vais seulement donner quelques exemples pour ne pas être trop long. Nous avons un Britannique ici, il sait ce que cela signifie. En Irlande, combien de temps cela a duré? Le plus important, c'est l'effort persévérant. Le gouvernement n'a pas échoué parce qu'il n'a pas renoncé. Eh bien, l'ONU doit prendre des mesures pratiques pour appuyer de façon pertinente les efforts du gouvernement. Le contact, les pays basques, on discute avec les gouvernements officiels, discutent avec les basques. Parce que sans contact, que ce soit contact sur le terrain des opérations, que ce soit contact autour d'une table, eh bien sans contact, il ne peut y avoir aboutissement d'un conflit. Et bien plus, tout conflit se termine autour d'une table. Parce que la conclusion d'un conflit doit sécuriser tous les partenaires, c'est-à-dire victimes et auteurs.
Mais André Alain Atondo, à ce niveau-là, le gouvernement et les groupes armés étaient autour d'une table lors de la conférence de Goma, mais on a toujours l'impression que c'est le gouvernement qui ne sait pas.
Savez-vous combien de temps les contacts ont duré entre l'Irlande et la Grande-Bretagne? Entre les Basques et le gouvernement espagnol. Parce que ça dépend de la loyauté, de l'intérêt de beaucoup de gens qui sont en jeu. Enfin, pour répondre au problème de la traçabilité et de la transparence, c'est un problème compliqué où doit intervenir en réalité la bonne volonté de tous les États et, j'allais dire, leur rectitude. Parce que, d'après la pratique internationale, lorsque vous achetez un État achète des armes dans une usine ou dans un autre État, eh bien, il doit signer une déclaration sur l'honneur qu'on appelle end use, c'est-à-dire signer sur l'honneur que ceci, je suis le dernier destinataire, je suis l'utilisateur final. Or, c'est par là que s'ouvre la boîte de Pandore, parce que ce monsieur-là peut acheter, signer et
en faire autre chose.
Voilà. Et c'est là où, moi je rejoins les experts, il faut tout à fait les encourager parce que c'est eux qui peuvent déceler la mauvaise foi dans la signature des contrats, dans la pratique internationale.
Alors, pour revenir aux sanctions, l'honorable Louaka a évoqué l'aspect sanctions, et nous venons de le voir, il y a les gels des biens de certaines personnalités, ils sont sur une liste noire de l'ONU. Quelle analyse faire en termes d'efficacité par rapport à ce type de sanctions? Je reviens à la question que je posais tout à l'heure.
Ça dépend. Les gels des avoirs, si ces messieurs-là n'ont que ces avoirs-là, évidemment, c'est d'une efficacité absolue. Mais si ces gens-là se nourrissent chez l'habitant, vous gérez ses avoirs, mais ils continuent à exploiter les minéraux, à les vendre par des moyens subtils, et avoir le bénéfice, avoir les armes, etc., c'est d'une importance, d'une efficacité relative. C'est pour cela que ce genre de situation perdure, parce qu'il faut mettre en action plusieurs types de moyens. Les moyens militaires, les moyens diplomatiques, les moyens moraux, etc.
Honorable Louaka, en nous appuyant sur les sanctions, hein, ça requiert encore la collaboration d'autres États.
Non, je crois que les sanctions, c'est dans l'ordre du symbolique. Parce que les noms qu'on a cités là, c'est quand même des personnalités. Les réfugiés rwandais, réfugiés entre guillemets, rwandais, qui est au Congo aujourd'hui membre FDLR. Il n'a même pas un compte dans la caisse d'épargne la plus proche. Le voyage à l'étranger, il n'a jamais rêvé dans sa vie d'aller un jour en Suisse, parce qu'il sait qu'il n'aura même pas le visa. Donc, lui dire qu'on va lui interdire de voyager, on va bloquer son compte, il n'en a pas. Donc, ça n'a aucune influence sur lui. Mais c'est vrai que les hauts cadres, qui peuvent avoir des moyens, qui peuvent bouger pour faire les lobbying de leur groupe, ça peut avoir une incidence, mais ça n'a aucune incidence sur les hommes des troupes, ceux qui font le plus de dégâts, ceux qui sont en train de violer, de tuer dans le petit village. Ce n'est pas celui qui a un compte en Suisse qu'on va le voir dans la savane du nord qui est là-bas en train de brûler des cases. Donc, je crois que là, comme je l'ai dit au départ, les Nations Unies veulent nous aider, mais nous devons nous aider d'abord nous-mêmes. La solution est simple. Il faut proposer deux choses à ces gens-là. On dialogue, mais dans le dialogue, vous devez des armes. On ne peut pas accepter chez nous des gens, des individus, des particuliers qui se réunissent comme ça et qui sont en possession des armes. Ils ne veulent pas déposer les armes volontairement, il faut les contraindre. Et c'est là maintenant on va rejoindre la question de la réforme de notre armée, il faut la rendre plus efficace. Je crois que ça aussi c'est la priorité. Tant que nous serons les maillons faibles dans la région des Grands Lacs, ces choses-là vont continuer. Parce que, comme l'expert l'a dit, il est très difficile de pouvoir organiser des contrôles hermétiques aux frontières. Il est très difficile de contraindre les fabricants des armes, juste à titre d'illustration. Vous savez que plus de 80% des exportations des armes recensées sont les faits de 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Plus de 80% des armes vendues dans le monde sont les faits de ces 5-là. Donc, ça va être difficile quand même de faire le Congo quelque chose d'imperméable aux armes. Mais je crois que ce qui peut dissuader les gens, c'est la remontée en puissance de notre outil de défense, l'armée. Si nous avions une armée, nous l'avions dans les temps. Sous la Deuxième République, je ne vais pas faire l'apologie de la Deuxième République. Je sais que je parle sous le contrôle d'Atoum. Mais à notre endroit, on n'a pas connu ces choses-là. On n'a pas connu ces choses-là, pourquoi? Parce qu'on avait une armée efficace. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour faire remonter en puissance notre outil de défense? Ces gens-là, ils sont connus, ils sont localisables. On a vu l'armée rwandaise à traverser, à mener des opérations, ils ont été dispersés, mais ils se sont reconcentrés. Donc, je crois, les sanctions, c'est très bien, dans l'ordre du symbolique, dans l'ordre des hauts cadres de ces groupes armés, mais le petit militaire, le petit militant, des bases qui est anticriminel, ça n'a aucun. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a entendu parler de la résolution, s'il a entendu, peut-être parce que vous êtes suivi partout, c'est là qu'il aurait même entendu que les Nations Unies ont pris quelque chose. Il n'est même pas informé de ça. Donc, contre ces gens-là, les dialogues ou la force.
Madame Robats, nous allons prendre cette question d'auditeur qui nous vient de Goma. Honore qui vous pour vous.
Mais le Goma, le Paul à Goma. Avant l'embargo sera égal à après, car aucun pays dans le monde ne peut pas trouver la paix sans l'implication totale des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Ils sont sur le distrait, ils sont juges et partis, laissons le temps au temps.
Alors, pour répondre, il dit avant l'embargo sera égal à après l'embargo, car aucun aucun pays dans le monde ne peut pas trouver la paix sans l'implication totale des États-Unis et de l'Union européenne qui cesse de nous distraire et sont jugés partis.
Bon, merci pour la question. Personnellement, je ne suis pas d'avis du même opinion que le fait est fondé sur l'implication de l'Union européenne ou des États-Unis. On a beaucoup d'exemples qui prédatent l'existence de ces États. Et je crois que la sagesse humaine a son histoire propre et que il faut que les acteurs d'un conflit arrivent à dialoguer, comme mes collègues ici ont signalé. Mais je comprends la frustration de quelqu'un qui a vécu la violence et l'instabilité aussi longtemps que les citoyens d'une ville comme Goma. Et je partage le vœu que ça change. Et je crois que c'est un problème complexe qui ne va pas réduire à un seul élément. Nous pouvons parler des armes, mais quelqu'un va constater qu'il y a déjà quelques armes qui circulent à l'est du Congo. On peut parler des minerais et on va découvrir qu'il y a aussi les artisans, il y a des exploitants artisanaux qui ne sont pas des criminels et on doit aussi soutenir leur travail. Donc, c'est un problème complexe et il faut simplement la bonne volonté de tous les acteurs et un respect élevé pour la loi et, oui, les capacités des institutions de l'État me semblent essentielles pour maintenir la sécurité.
Il y a cet auditeur qui nous écrit de Bouna en province orientale, Hilaire Aguemonga, qui dit « Sans un mécanisme de contrôle clair et l'identification de groupes armés, comment le Conseil de sécurité de l'ONU se rassurera-t-il du respect de l'embargo ?» André-Alain Atondou, on se retrouve un peu là dans un cas où on a des groupes armés qui se font, qui se défont le lendemain, qui créent de nouvelles alliances. Finalement, va-t-on en finir un jour ?
Il finit, oui, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce que, comme l'a fait l'honorable Louaka, il allait me sentir tout à fait à l'aise quand il a posé la question des armes. Pourquoi le gouvernement discute avec des groupes qui sont armés ? Alors, je pose la question. Quand les groupes dits rebelles avaient déposé les armes ici en République démocratique du Congo, c'est pas immédiatement après Saint-City, c'est des années après, et même après les élections. Et donc, c'est une question de patience, de psychologie aussi, et de stratégie. Et voilà que c'est dans ces conditions que doit s'opérer la réforme de l'armée. C'est-à-dire trouver une âme nouvelle à notre armée, ce qui exige du temps, et pendant ce temps-là, l'armée doit se battre avec son ancienne âme. Donc voilà pourquoi la lecture de la réforme de notre armée n'est pas aisée. Mais grâce aux efforts persévérants, à la coopération de nos partenaires internationaux, vous savez, il y a les Anglais, il y a les Belges, il y a ceci, tous les partenaires, les Britanniques, ils sont décidés à nous aider. Mais nous savons que ça prend du temps. Et voilà pourquoi on a l'impression que rien n'avance. Mais en réalité, c'est un peu comme le soir. Le soir, vous regardez la journée et puis vous êtes surpris qu'il fait noir. Eh bien, nous serons surpris ainsi qu'en regardant la nuit, et nous serons surpris qu'un jour, il fait jour déjà.
Alors, il y a sur terrain le gouvernement qui a des partenariats avec des ONG comme le PAREC. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour que ce genre d'action soit beaucoup plus efficace et porte beaucoup plus de fruits, par exemple, que maintenant dans la récupération des armes?
Voilà, par exemple, un domaine où une résolution du Conseil de sécurité donnant des moyens conséquents au PAREC, eh bien, ça pouvait dissuader, parce que le PAREC achète des armes et les brûle. Mais s'il n'achète que des bricoles pour des moyens, eh bien, les autres armes vont continuer à prospérer. Donc, il faut qu'on donne au PAREC les moyens. Le Conseil de sécurité devrait penser à donner au PAREC les moyens, probablement en collaboration avec la MONUSCO, les moyens d'acheter des armes, même des canons s'il le faut, n'est-ce pas? que ce serait une façon pertinente qui ferait réfléchir beaucoup de gens.
Honorable Louaka, le Conseil de sécurité devrait donner beaucoup plus de moyens, par exemple, au PAREC.
Non, je ne pense pas que ce sera la bonne solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la meilleure solution, c'est d'avoir une armée digne de ce nom, une police réellement nationale, avec des professionnels, des gens très bien formés, des services de sécurité, des services de renseignement efficaces. Ce qu'on fait avec le PAREC, c'est faute de mieux. Vous savez qu'il y a aussi des effets pervers avec le PAREC. Lorsque le PAREC reprend une arme à 100 dollars et qu'on sait dans la sous-région, on peut avoir une Kalachnikov à 50 dollars, ça fait quoi? Ça fait appel d'air. Ça fait appel d'air. Donc, je prends les armes chez le voisin, je viens les fournir à PAREC, je me fais un bénéfice de 100%. Donc, au lieu de résoudre les problèmes, en tout cas, on est en train d'amplifier le mouvement. Ça devient encore du trafic d'armes. Ce qui a été fait dans la ville de Kinshasa, j'ai encouragé le PAREC parce que moi-même, lors de certaines séances, j'ai été présent, ramasser les armes qui sont à Kinshasa, mais je ne pense pas que ce soit la solution idoine. C'est, puisqu'on ne peut pas faire autrement,
au moins parmi les solutions.
Parmi les solutions, mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Pour moi, la meilleure des solutions, c'est la remontée en puissance des FRDC, la police nationale, les services de renseignement, de sécurité. Ça, c'est la solution idéale. Parce que maintenant, si on commence à dire que les Nations Unies vont donner les moyens au PAREC pour récupérer les armes, et vous savez que ce qui se passe aussi dans la FRDC. À Kinshasa, le phénomène qu'on a remarqué, c'est quoi avec le PAREC? C'est les épouses des militaires qui allaient déposer les armes. Qui allaient déposer les armes pour récupérer les enfants. Et on n'a jamais entendu dans un camp un commandant d'unité déclarer qu'ils ont perdu des armes. Parce que ça aussi, c'est un problème. Les contrôles des armes qu'on peut qualifier des armes officielles au sein des FRDC n'est pas efficace. C'est un problème aussi.
Honorable, dites-nous un mot sur le débat houleux qui a récemment eu lieu à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi sur la circulation des armes légères et de petit calibre. En un mot, où est-ce qu'on en est au niveau de l'Assemblée nationale?
Non, la loi a été adoptée. La loi a été adoptée, et donc elle est là, et là, je crois qu'elle a été même promulguée, elle a été adoptée le 1er novembre 2010, la loi est là. Mais vous savez, il faut une volonté politique, une volonté réelle, avec des moyens pour faire respecter les dispositions d'une loi. Je vous donne juste un exemple comme ça. Le gouverneur de la ville a interdit les sachets. Mais aujourd'hui, les sachets continuent, on voit les gens continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme efficace pour pouvoir faire sanctionner ceux qui ne respectent pas cette loi. C'est exactement avec la loi qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Toujours, ça participe de cette volonté de vouloir combattre ce phénomène de la circulation des armes dans notre pays. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens de faire respecter cette loi.
Fredro Bass, les experts ont formulé une série de recommandations, notamment au gouvernement congolais. Quelles sont les plus importantes?
Bon, la plupart des recommandations sont d'abord ciblées au Conseil de sécurité, et là, peut-être le plus important, c'est ce qui concerne la diligence requise de ces sociétés qui achètent les minéraux d'origine de la République démocratique du Congo. Ça, on a reçu le soutien du Conseil de sécurité et je crois que maintenant c'est pour les sociétés de mettre en œuvre ces recommandations. À part ça, je crois que il s'agit, on a suggéré plusieurs autres et que les États, la communauté internationale aussi fournit l'appui nécessaire pour le renforcement des frontières. Et entre autres, on a aussi suggéré l'appui financier aux mesures d'améliorer les systèmes de communication qui sont en place dans les zones un peu enclavées, qui manquent les moyens de communication de base, afin de renforcer la sécurité des citoyens là.
André Alain Atundu, en plus des éléments que Fredro Bass a donné, vous avez, l'honorable Louaka et vous-même avez parlé de la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité, que faut-il de plus?
Mais d'abord, je voudrais m'adresser à l'opinion. et particulièrement à l'honorable Louaka, en disant que la situation que nous vivons est tellement complexe et profonde qu'il n'y a pas une seule solution idoine. C'est un faisceau de solutions qui va mettre fin à cette situation. Le faisceau de solutions, c'est quoi? C'est la réforme de l'armée, c'est la montée en puissance de l'armée, c'est l'action du PAREC, hein, c'est le dialogue, c'est tous ces éléments-là. Or, toutes ces solutions ont chacune ses conditions et sa durée de vie, sa durée de maturation, plus exactement. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas négliger une solution. En disant que le Conseil de sécurité devrait penser à donner des moyens à la PAREC, je n'ai pas dit que le Conseil de sécurité devrait mettre fin à la montée en puissance dans l'armée, ni à combattre ces groupes sous les terrains par MONUSCO. Non, je voudrais seulement dire qu'il faut un faisceau de relations, un faisceau de solutions et une volonté constante et constamment renouvelée, tant sur le plan national que sur le plan international.
Honorable Louaka, un mot par rapport aux différentes recommandations.
Non, je suis tout à fait d'accord, mais je crois que nous devons évaluer aussi les mesures que nous prenons, que nous proposons. J'ai entendu notre ami nous proposer, dire qu'il y a les moyens de communication dans certains coins reculés, c'est bien. Mais les gens, lorsqu'ils ont la folie, lorsqu'ils ont les téléphones, bon, il y a un problème, des groupes armés qui les attaquent, ils appellent qui? Ils font quoi? Ça me rappelle l'histoire de ces candidats députés dans le Kassai. Il est allé l'acheter une ambulance pour son territoire, mais il appelle l'hôpital. Bon, l'ambulance va amener les gens où? Donc, je crois que nous devons voir aussi l'efficacité de ces choses-là qu'on fait sur le terrain. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est un faisceau, mais nous, ce qui nous préoccupe, nous, quand je parle de nous de l'opposition, c'est qu'on a l'impression, le sentiment, qu'il n'y a pas une volonté réelle de la part de la majorité au pouvoir de le plus rapidement, de doter le pays le plus rapidement possible d'une armée digne de ce nom, d'une police digne de ce nom. Voilà ce qui nous préoccupe. Parce que maintenant, elle a commencé à confier la sécurité de la population à une ONG qui s'appelle PAREC, et nous sommes très inquiets.
Frère Robats, nous attaquons la dernière partie de cette émission. Il va falloir conclure. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion?
Bon, en guise de conclusion, il est clair qu'il y a un problème sérieux. Continue et il faut reconnaître l'existence de ces groupes armés qui durent jusqu'à ce jour. Quand même, il y a le progrès à signaler par rapport, par exemple, à leur moyen de financement qui est sans doute réduit aujourd'hui. Malheureusement, ils continuent à faire le commerce à travers les intermédiaires et à contrôler les zones un peu éloignées. Donc, beaucoup reste à faire et la vigilance de tous les membres états du Conseil de sécurité est méritée, je crois.
Merci, Fred Robats. Je rappelle que vous êtes membre du panel des experts de l'ONU. André-Alain Atondou, un mot en guise de conclusion.
Un mot en guise de conclusion, c'est que il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les efforts du gouvernement et des autorités nationales dans la recherche de la paix.
Cette sourire, l'honorable
Louaka, je ne sais pas pourquoi. Hein? Tout simplement parce que l'honorable Louaka pense que l'opposition a le monopole des inquiétudes de la population. Or, c'est une inquiétude partagée. Mais soit il y a ça, il faut louer la coopération entre l'ONU et le gouvernement et enfin déplorer les moyens insuffisants qui prolongent d'autant la survenue ou la surveillance d'une solution idoine.
Honorable Louaka, en guise de conclusion, ne faudra-t-il pas en faire une question nationale au lieu de cette partition majorité-opposition?
Exactement, je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que cela nous permettra, dans les échanges des idées, d'avoir des solutions efficaces. Le chef de l'État a pris une mesure justement pour combattre cette insécurité. Il a interdit l'exploitation des minerais à l'est, mais ils ne vont pas respecter parce qu'il n'y a pas de gens pour faire ce test-là. Donc je crois que nous, si nous nous mettons autour d'une table, tous les Congolais qui aiment ces pays, réfléchir comment trouver des solutions idoines avec justement l'appui de la communauté internationale qui est si présente chez nous, je pense que nous pouvons faire un bon avant.
Merci honorable Thomas Loakalo-Saint-Jola, député MLC. Merci à André Alain Atundu, membre de la majorité présidentielle. Cette émission est terminée. Vous pouvez la réécouter en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa ou sur notre site internet radiocapi.net. Bon, c'est au programme sur Radio Capi. Thank you.